RFJ Info.
Le journal d'Alexandre Rosset.
Bonjour, le gouvernement bernois va-t-il mettre son veto sur le projet de restructuration de l'hôpital de Moutier? C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre dans plusieurs réponses à des interpellations. Explication dans ce journal. Les Suisses sont toujours plus stressés au travail. Le constat ressort d'une étude de l'Office fédéral de la santé. Le syndicat Unia tire la sonnette d'alarme et demande des mesures de prévention. Une erreur de pilotage est à l'origine du crash d'un avion de l'armée au Schreckhorn en 2017. La justice militaire a rendu ses conclusions. Aucune suite ne sera donnée à l'affaire comme le pilote était décédé dans l'accident. L'après-midi s'annonce encore gris et humide. La pluie nous accompagnera jusqu'en fin de journée. L'été fera ensuite progressivement son retour à partir de demain. Le gouvernement bernois apporte ses réponses aux députés concernant l'avenir de l'hôpital de Moutier. Publiée ce matin sur le site internet du canton, elle concerne trois motions et une interpellation déposées entre avril et juin par des élus de tous bords au Grand Conseil. Ces textes concernaient pour la plupart le projet de restructuration du site prévotois de l'hôpital du Jura bernois en établissement intercantonal intégrant soins somatiques et psychiatriques. Le croisement de ces réponses soulève une question, Alexandre Steiner.
Le gouvernement bernois pourrait-il mettre son veto dans ce dossier? C'est ce que laisse entendre le conseil exécutif. S'il rappelle à plusieurs reprises que les hôpitaux bernois sont des sociétés anonymes et que les décisions stratégiques dépendent de leur conseil d'administration, il réaffirme aussi que pour lui, l'objectif supérieur est d'assurer la couverture en soins hospitaliers de toute la population francophone et qu'il continuera à s'engager en faveur du maintien des emplois et des compétences à l'hôpital de Moutier. Cet élément est particulièrement intéressant si on le met en parallèle d'un rappel législatif formulé dans une autre réponse. Selon la loi bernoise sur les soins hospitaliers, le conseil exécutif peut interdire un regroupement qui irait à l'encontre des intérêts cantonaux et régionaux primordiaux. Il semble donc désormais clair que le conseil exécutif pourrait bel et bien avoir le dernier mot, selon les conclusions auxquelles parviendra le groupe de travail intercantonal actuellement à l'œuvre. On rappelle que ce groupe de travail composé de professionnels de la santé de l'hôpital du Jura bernois et de l'hôpital du Jura est chargé de trouver une solution pour pérenniser l'hôpital de Moutier.
Autre élément à retenir des réponses du gouvernement bernois, il n'est pas question pour lui d'intégrer l'hôpital du Jura bernois dans le centre hospitalier Bienne. Concernant l'avenir du site de Bellelay, le conseil exécutif indique que l'AJB n'a pas encore officiellement fait part de son intention de déménager. La situation devrait être clarifiée avant la fin de l'année. Le conseil exécutif s'engagera dans tous les cas à prendre des mesures urgentes en cas de résiliation du bail. On reste à Moutier, commune qui a été nommée la plus solidaire de l'arc jurassien. La cité prévotoise figure dans un classement établi par l'association Solidaire Suisse qui a évalué l'action de 87 communes en matière d'achat socialement responsable et de soutien à la coopération au développement. Elle occupe la 9e position en Suisse romande. Le conseil municipal prévotois a pris connaissance avec intérêt et satisfaction du résultat de cette étude. Un soutien bienvenu pour l'association Décrocher la Lune. La fondation UBS lui a remis hier un chèque de 20 000 francs. Ce don doit contribuer à financer l'adaptation des places de travail à l'hôtel-restaurant La Demi-Lune à Saint-Ursanne. L'association a ouvert l'établissement au mois de mars. Elle y emploie des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental. La cuvée 2019 ne restera pas dans les annales pour la récolte des fruits. Par rapport à l'année passée, les vergers n'auront donné que peu de pommes, damascines, pruneaux ou encore mirabelles. L'exploitant des vergers d'Ajoie, Alain Perret, était aujourd'hui l'invité de notre nouvelle chronique dans la matinale Jurassime. Il a fait le point sur la récolte.
On a une succession d'événements qui ont fait qu'on a une petite récolte cette année. Vraiment,
c'est
faible. Donc le premier événement, c'est la grosse charge. Déjà, la grosse charge de l'année dernière. Vous savez que l'année dernière, on a eu une immense récolte de fruits. De tous fruits confondus. On a eu des récoltes absolument records. Donc naturellement, les arbres vont faire une pause. Ils vont tomber dans un petit phénomène d'alternance. Donc après une grosse année, ils vont moins fleurir, etc. Ensuite, on a eu une succession d'événements ce printemps. On a eu quand même deux matins à moins deux. On a eu en mai, ensuite on a eu du froid, on a eu un peu de neige aussi. Ouais. Puis cette succession d'événements a fait que les fruits ont beaucoup chuté après la floraison. On se retrouve aujourd'hui dans les pommes, dans les fruits à pépins, on a, une bonne demi-récolte par rapport à une année standard. Voilà. Et puis dans tout ce qui est fruits à noyaux, style damascine, mirabelle et tout, on a 10-15%, 20%.
Des propos recueillis par Léandre Béret et Stéphanie Chalère dans la matinale. La région est décortiquée par deux passionnés de cinéma. Depuis la semaine dernière, le français Erwan Le Gac et le jurassien Julien Comelli ont investi le cinéma Lido à Delémont. Ils y tournent des bonus de films des années 60 à 80 pour des éditeurs de DVD. Et parmi ces documentaires, ils en réalisent un sur le film de 1976, Le pont de Cassandra, qui met en scène Sophia Loren. À l'époque, les équipes de tournage avaient posé leurs valises dans le Jura. Erwan Le Gac et Julien Comelli ont donc décidé de faire de même et de revenir sur les lieux emblématiques du film. Un travail d'envergure, selon Julien Comelli.
C'est un jeu de piste, hein, parce que moi j'avais été ici longtemps, mais voilà, c'est regarder le film quasiment image par image, puis dire voilà, ce plan-là, il a été tourné là. Alors après, il faut prendre une voiture, il faut aller sur place, il faut s'en assurer. On a retrouvé beaucoup d'endroits, il y en a un très très clair, évident, c'est la Roche-Saint-Jean, où il y a une cascade qui a été réalisée là. Une équipe de tournage a été placée là en janvier 1976. Après, on cherche les anachronismes, puisque comme dans tous les films, hein, on est censé voir un train qui va du point A au point B, évidemment, ça ne joue absolument pas. Après, il y a des scènes qui ont été faites à Saint-Ursanne, qui ont été coupées du montage, donc il y a des gens ici qui se disent, il y a des scènes qui ont été faites à Saint-Ursanne et dans le film on ne les voit pas. Alors, voilà. Et après il y a d'autres endroits où on n'est pas exactement, il faut être honnête aussi, exactement au millimètre près où on devrait être, mais ça donne parfaitement le change. Et on a redécouvert que notre cher groupe Bélier, à travers des personnes isolées, hein, ce n'est pas le mouvement lui-même, eh bien, avait provoqué un attentat. C'est carrément stipulé dans les sites anglo-saxons que c'est des actes terroristes. Pour retarder le tournage de Carlo Ponti, il avait peint sur des wagons la lutte continue. Et donc tous les plans d'hélicoptère n'ont pas pu être faits. On a dû repeindre des wagons à l'arrache en 3 jours, retardant le tournage. Qu'est-ce que c'est que ce pays d'Astérix où on nous résiste? Enfin voilà, donc des choses vraiment rigolotes.
Et retrouvez plus d'informations sur le travail d'Erwan Le Gac et de Julien Comelli demain dans la matinale. La femme qui a tué un enfant de 7 ans en mars à Bâle reste en préventive. Le tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours déposé contre la prolongation de sa détention. Cette septuagénaire avait frappé dans la rue le bambin d'un coup de couteau à la gorge. Après 3 mois, le tribunal des mesures de contrainte a décidé de prolonger cette détention jusqu'au 1er novembre à cause du risque de récidive. Le ministère public balois mène une enquête pénale pour meurtre, voire assassinat. Une expertise psychiatrique a aussi été ordonnée. Stress au travail, posture douloureuse et fatigante, anxiété et épuisement émotionnel, ces phénomènes sont en augmentation sur les lieux de travail. Le syndicat Unia s'en inquiète en faisant référence à une enquête suisse sur la santé publiée aujourd'hui par la Confédération. Les précisions de Raphaël Chalvera.
La proportion des employés souffrant de stress est passée de 18% en 2012 à 21% en 2017. C'est une étude de l'Office fédéral de la santé qui le révèle. Les salariés sont de plus en plus exposés aux risques psychosociaux, rythme de travail élevé, manque d'autonomie, discrimination et peur de perdre son emploi. Le stress physique au travail reste aussi élevé. Unia se dit préoccupée par la forte proportion de personnes très souvent stressées et épuisées émotionnellement, soit 49% des personnes qui risquent ainsi le burn-out. Pour le syndicat, il est donc important d'avoir des mesures de prévention, en particulier dans les secteurs dits féminins comme le commerce de détail, les soins et l'accompagnement. Unia dénonce aujourd'hui les attaques contre la protection de la santé. Il évoque par exemple l'absence d'enregistrement du temps de travail. Les employés ont tendance à travailler davantage. Pour le syndicat, la compatibilité entre la vie professionnelle et la vie familiale est mise à l'épreuve. Le temps dédié au repos et à la détente devient trop court.
Après un net recul en juin, les exportations horlogères suisses ont à nouveau progressé au mois de juillet. Elles se sont inscrites à 1,9 milliard de francs, soit une hausse de 4,3% en comparaison annuelle, selon les chiffres publiés ce matin par la Fédération de l'industrie horlogère. Les montres de plus de 3 000 francs ont largement contribué à cette embellie. Elles sont les seules à avoir connu une progression en valeur et en volume. Le pilote militaire est seul responsable du crash d'un petit avion Pilatus PC-7 en septembre 2017. L'homme s'était tué en percutant le Schreckhorn, un sommet des Alpes bernoises, situé non loin de Grindelwald et d'Interlaken lors d'un vol d'entraînement. La justice militaire a rendu ses conclusions aujourd'hui. Le pilote, pourtant expérimenté, a choisi la mauvaise procédure en continuant de voler à vue alors qu'il se trouvait dans les nuages. L'homme a vraisemblablement été tué sur le coup, selon le rapport. Son corps avait été retrouvé le lendemain de l'accident. Les précisions de notre correspondant à Berne, Jérôme Favre.
Pilote militaire, professionnel pendant 25 ans, et à leur instructeur, l'homme devait effectuer des heures de vol et un aller-retour Payerne-Lugano. Son état de santé n'est pas en cause, ni la consommation d'alcool ou de stupéfiants, et la thèse d'un acte volontaire n'a pas été retenue. Mais le pilote a fait un mauvais choix, selon les enquêteurs, en volant à vue avec un simple guidage radar. Le temps ne le permettait pas. Le commandant des forces aériennes de l'époque, Aldo Schellenberg, soulignait d'ailleurs qu'il compliquait les recherches.
Les conditions météorologiques sont très très difficiles.
Pour l'expert aéronautique, la décision du pilote de ne pas passer en vol aux instruments reste incompréhensible, car il était ce jour-là tout simplement impossible de survoler cette région en vol à vue. L'affaire est à présent classée.
L'appareil a été détruit dans l'accident, mais les enquêteurs ont exclu tout défaut technique. À Hong Kong, la chef de l'exécutif espère un retour au calme. Carrie Lam s'est exprimée ce matin lors d'une conférence de presse télévisée. Selon elle, le rassemblement pacifique de dimanche doit marquer un tournant dans les manifestations qui touchent le pays depuis 10 semaines maintenant. Dans son allocution, elle a une nouvelle fois refusé d'accéder aux demandes des protestataires.
RFJ, il est 12h26.
Sport.
Henri Laaksonen ne trouve plus la solution sur le circuit ATP de tennis. Le Chafouzois a subi ce matin une 4e élimination consécutive au premier tour. Il a été sorti par le Coréen Jukae Lee à Winston-Salem aux États-Unis. Défaite en 2 manches, 7-6, 6-1. Victoria Golubic a, elle, connu le même sort que Jill Teichmann du côté de New York. Comme la biennoise, la Zurichoise a mordu la poussière d'entrée. Elle a sombré face à la Française Fiona Ferro avec un revers en 2-7, 6-0, 6-1. 3 Suisses prendront le départ du Tour d'Espagne cycliste. Les Valaisans Steve Morabito et Kilian Franchini pédaleront au sein de la Groupama FDJ dès samedi sur la Vuelta. L'Argovien Sylvain Dillier défendra les couleurs d'AG2R, la mondiale. Le Tour d'Espagne s'élance samedi de Torrevieja et prendra fin le 15 septembre à Madrid. C'est le rendez-vous traditionnel des mercredis de la rentrée pour les coureurs à pied. Les 4 foulées reviennent dès demain pour une 27e édition. Le principe reste le même avec 4 courses au programme dans les Franches-Montagnes sur 4 mercredis suivis. Le départ sera donné demain soir au bois. La tramelotte Marie-Claude Châtelain sera de la partie. Cette jeune retraitée compte une 20aine de participations aux 4 foulées à son actif. Marie-Claude Châtelain.
J'ai toujours bien aimé ces 4 foulées, ces 4 étapes qui se font dans la région. C'est surtout pour ça que je les ai fait. Même que maintenant, pour moi, 10 km, c'est un peu trop rapide, mais j'ai beaucoup de plaisir à participer.
Pourquoi ça devient trop rapide?
Parce que c'est que 9 km et puis ça part déjà très vite. Il y a une grande foule, puis ça part très vite, puis on se laisse un peu entraîner au départ, puis après, c'est quand même un peu dur, vu mon âge, d'aller trop vite.
Là, c'est peut-être le conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui n'a jamais fait les 4 foulées, c'est de prendre un bon rythme dès le départ, de ne pas forcément suivre le peloton.
Oui, tout à fait. Si on n'est pas trop habitué, il faut plutôt partir un petit peu en arrière et puis suivre, quoi. Ça va aussi.
Marie-Claude Châtelain qui était au micro de Mathieu Schaffner. Les 4 foulées prennent leur envol demain soir au bois. Horaires et parcours à retrouver sur le site 4foulées.ch. Bel après-midi.
Et la suite, il y aura de la musique dans un instant avec Bad Wolves. Et 2 naissances à vous annoncer dans quelques secondes. Des conditions maussades toujours, avec peu de soleil et des précipitations se répétant régulièrement. C'est ce que prévoient les experts de Météo News pour la suite, avec toutefois une accalmie qui est annoncée en fin de journée. Tout cela ne fera pas grimper le mercure bien haut, avec des maxima de 14 degrés à Seignelay-Légier, 17 à Moutier et Porrentruy et 18 à Delémont. Demain, on nous annonce le retour à un temps sec sous une bise sensible et des rafales entre 40 et 50 km/h. Il pourra y avoir aussi des bandes de nuages plus ou moins étendues et il fera entre 9 et 13 degrés demain à l'aube, puis au meilleur de la journée, 18 aux Franches-Montagnes et 22 en plaine.